J'avançais en tremblant sur les planches mal jointes, regardant à distance cette cloche si fameuse parmi les enfants et le peuple de Paris, et ne remarquant pas, sans effroi, que les auvents couverts d'ardoises qui entourent le clocher de leurs plans inclinés étaient au niveau de mes pieds. Dans les intervalles, je voyais en quelque sorte à vol d'oiseau la place du parvis Notre-Dame et les passants comme des fourmis. Tout à coup, l'énorme cloche tinta. Une vibration profonde remua l'air. Fit osciller la lourde tour. Le plancher sautait sur les poutres. Le bruit faillit me renverser. Je chancelais, prêt à tomber, prêt à glisser sur les auvents d'ardoises en pente. De terreur, je me couchais sur les planches, les serrant étroitement de mes deux bras, sans parole, sans haleine, avec ce formidable tintement dans les oreilles. Et sous les yeux ce précipice, cette place profonde où se croisaient tant de passants paisibles et enviés. Eh bien, il me semble que je suis encore dans la tour du Bourdon. C'est tout ensemble, un étourdissement et un éblouissement. Il y a comme un bruit de cloche qui ébranle les cavités de mon cerveau. Et autour de moi, je n'aperçois plus cette vie plane et tranquille que j'ai quittée, et où les autres hommes cheminent encore, que de loin et à travers les crevasses d'un abîme. L'hôtel de ville est un édifice sinistre, avec son toit aigu et roide, son clocheton bizarre, son grand cadran blanc, ses étages à petites colonnes, ses milles croisées, ses escaliers usés par les pas, ses deux arches à droite et à gauche. Il est là, de plein pied avec la grève, sombre, lugubre, la face toute rongée de vieillesse, et si noir qu'il est noir au soleil. Les jours d'exécution, il vomit des gendarmes de toutes ses portes et regarde le condamné avec toutes ses fenêtres. Et le soir, son cadran, qui a marqué l'heure, reste lumineux sur sa façade ténébreuse. Il est 1h15. Voici ce que j'éprouve maintenant. Une violente douleur de tête. Les reins froids, le front brûlant. Chaque fois que je me lève, ou que je me penche, il me semble qu'il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau et qui fait battre ma cervelle contre les parois du crâne. J'ai des tressaillements convulsifs, et de temps en temps la plume tombe de mes mains comme par une secousse galvanique. Les yeux me cuisent, comme si j'étais dans la fumée. J'ai mal dans les coudes. Encore 2h45, et je serai guéri. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Et qu'est-ce donc que cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable, qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Apparemment, ce n'est pas là souffrir. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions que le sang s'épuise goutte à goutte ou que l'intelligence s'éteigne pensée à pensée? Et puis on ne souffre pas? En sont-ils sûrs? Qui le leur a dit? Compte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle ait crié au peuple? Cela ne fait pas de mal. Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire « C'est bien inventé, tenez-vous-en là, la mécanique est bonne. Est-ce Robespierre? Est-ce Louis XVI ?» Non, rien. Moins qu'une minute. Moins qu'une seconde. Et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis seulement en pensée à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, rompt les nerfs, brise les vertèbres? Mais quoi? Une demi-seconde? La douleur est escamotée? Horreur. Il est singulier que je pense sans cesse au roi. J'ai beau faire, beau secouer la tête, j'ai une voix dans l'oreille qui me dit toujours « Il y a dans cette même ville, à cette même heure, et pas bien loin d'ici, dans un autre palais, un homme qui a aussi des gardes à toutes ses portes, un homme unique comme toi, dans le peuple, avec cette différence qu'il est aussi haut que tu es bas. Sa vie entière, minute par minute, n'est que gloire, grandeur, délice, enivrement. Tout est autour de lui amour, respect, vénération. Les voix les plus altes deviennent basses en lui parlant, et les fronts les plus fiers ploient. Il n'a que de la soie et de l'or sous les yeux. À cette heure, il tient quelques conseils de ministres, où tous sont de son avis, ou bien songe à la chasse de demain, au bal de ce soir, sûr que la fête viendra à l'heure, et laissant à d'autres le travail de ses plaisirs. Eh bien, cet homme est de chair et d'os, comme toi. Et pour qu'à l'instant même l'horrible échafaud s'écroulât, pour que tout te fût rendu, vie, liberté, fortune, famille, il suffirait qu'il écrivît avec cette plume les 7 lettres de son nom au bas d'un morceau de papier, ou même que son carrosse rencontrât ta charrette. Et il est bon, et il ne demanderait pas mieux peut-être, et il n'en sera rien. Eh bien donc, ayons courage avec la mort. Prenons cette horrible idée à deux mains, et considérons-la en face. Demandons-lui compte de ce qu'elle est. Sachons ce qu'elle nous veut. Retournons-la en tous sens. Épelons l'énigme, et regardons d'avance dans le tombeau. Il me semble que, dès que mes yeux seront fermés, je verrai une grande clarté et des abîmes de lumière où mon esprit roulera sans fin. Il me semble que le ciel sera lumineux de sa propre essence, que les astres y feront des taches obscures, et qu'au lieu d'être, comme pour les yeux vivants, des paillettes d'or sur du velours noir, ils sembleront des points noirs sur du drap d'or. Ou bien, misérable que je suis, ce sera peut-être un gouffre hideux, profond, dont les parois seront tapissées de ténèbres, et où je tomberai sans cesse en voyant des formes remuées dans l'ombre. Ou bien, en m'éveillant après le coup, je me trouverai peut-être sur quelque surface plane et humide, rampant dans l'obscurité et tournant sur moi-même, comme une tête qui roule. Il me semble qu'il y aura un grand vent qui me poussera et que je serai heurté, çà et là, par d'autres têtes roulantes. Il y aura par place des mares et des ruisseaux, d'un liquide inconnu et tiède. Tout sera noir. Quand mes yeux, dans leur rotation, seront tournés en haut, ils ne verront qu'un ciel d'ombre, dont les couches épaisses pèseront sur eux. Et au loin, dans le fond, de grandes arches de fumée plus noires que les ténèbres. Ils verront aussi voltiger dans la nuit de petites étincelles rouges qui, en s'approchant, deviendront des oiseaux de feu, et ce sera ainsi toute l'éternité. Il se peut bien aussi qu'à certaines dates, les morts de la grève se rassemblent par de noires nuits d'hiver sur la place qui est à eux. Ce sera une foule pâle et sanglante, et je n'y manquerai pas. Il n'y aura pas de lune, et l'on parlera à voix basse. L'hôtel de ville sera là, avec sa façade vermoulue, son toit déchiqueté et son cadran qui aura été sans pitié pour tous. Il y aura sur la place une guillotine de l'enfer, où un démon exécutera un bourreau. Ce sera à 4 heures du matin. À notre tour, nous ferons foule autour. Il est probable que cela est ainsi. Mais si ces morts-là reviennent, sous quelle forme reviennent-ils? Que gardent-ils de leur corps incomplet et mutilé? Que choisissent-ils? Est-ce la tête ou le tronc qui est spectre? Hélas, qu'est-ce que la mort fait avec notre âme? Quelle nature lui laisse-t-elle? Qu'a-t-elle à lui prendre ou à lui donner? Où la met-elle? Lui prête-t-elle quelquefois des yeux de chair pour regarder sur la terre et pleurer? Ah, un prêtre qui sache cela. Je veux un prêtre et un crucifix à baiser. Mon Dieu, toujours le même. Je l'ai prié de me laisser dormir, et je me suis jetée sur le lit. En effet, j'avais un flot de sang dans la tête qui m'a fait dormir. C'est mon dernier sommeil de cette espèce. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que c'était la nuit. Il me semblait que j'étais dans mon cabinet avec 2 ou 3 de mes amis, je ne sais plus lesquels. Ma femme était couchée dans la chambre à coucher à côté et dormait avec son enfant. Nous parlions à voix basse, mes amis et moi, et ce que nous disions nous effrayait. Tout à coup, il me sembla entendre un bruit quelque part, dans les autres pièces de l'appartement. Un bruit faible, étrange, indéterminé. Mes amis avaient entendu comme moi. Nous écoutâmes. C'était comme une serrure qu'on ouvre sourdement, comme un verrou qu'on scie à petit bruit. Il y avait quelque chose qui nous glaçait. Nous avions peur. Nous pensâmes que peut-être c'était des voleurs qui s'étaient introduits chez moi, à cette heure si avancée de la nuit. Nous résolûmes d'aller voir. Je me levai, je pris la bougie, Mes amis me suivaient, un à un. Nous traversâmes la chambre à coucher à côté. Ma femme dormait avec son enfant. Puis, nous arrivâmes dans le salon. Rien. Les portraits étaient immobiles, dans leur cadre d'or sur la tenture rouge. Il me sembla que la porte du salon à la salle à manger n'était point à sa place ordinaire. Nous entrâmes dans la salle à manger. Nous en fîmes le tour. Je marchais le premier. La porte sur l'escalier était bien fermée. Les fenêtres aussi. Arrivé près du poêle, je vis que l'armoire au linge était ouverte et que la porte de cette armoire était tirée sur l'angle du mur comme pour le cacher. Cela me surprit. Nous pensâmes qu'il y avait quelqu'un derrière la porte. Je portai la main à cette porte pour refermer l'armoire. Elle résista. Étonné, je tirai plus fort. Elle céda brusquement. Et nous découvrîmes une petite vieille, les mains pendantes, les yeux fermés, immobile, debout, et comme collée dans l'angle du mur. Cela avait quelque chose de hideux, et mes cheveux se dressent d'y penser. Je demandai à la vieille « Que faites-vous là ?» Elle ne répondit pas. Je lui demandai « Qui êtes-vous ? » Elle ne répondit pas, ne bougea pas, et resta les yeux fermés. Mes amis dirent « C'est sans doute la complice de ceux qui sont entrés, avec de mauvaises pensées. Ils se sont échappés, en nous entendant venir. Elle n'aura pu fuir, et s'est cachée là. » Je l'ai interrogée de nouveau. Elle est demeurée sans voix, sans mouvement, sans regard. Un de nous l'a poussée à terre. Elle est tombée. Elle est tombée tout d'une pièce, comme un morceau de bois, comme une chose morte. Nous l'avons remuée du pied, puis deux de nous l'ont relevée et de nouveau appuyée au mur. Elle n'a donné aucun signe de vie. On lui a crié dans l'oreille. Elle est restée muette, comme si elle était sourde. Cependant, nous perdions patience. Il y avait de la colère dans notre terreur. Un de nous m'a dit « Mettez-lui la bougie sous le menton. » Je lui ai mis la mèche enflammée sous le menton. Alors, elle a ouvert un œil à demi, un œil vide, terne, affreux, et qui ne regardait pas. J'ai ôté la flamme et j'ai dit « Ah, enfin ! Répondras-tu, vieille sorcière ? Qui es-tu ?» L'œil s'est refermé, comme de lui-même. Pour le coup, c'est trop fort, ont dit les autres. « Encore la bougie, encore ! Il faudra bien qu'elle parle. » J'ai replacé la lumière sous le menton de la vieille. Alors, elle a ouvert ses deux yeux, lentement, nous a regardés tous les uns après les autres. Puis, se baissant brusquement, a soufflé la bougie avec un souffle glacé. Au même moment, j'ai senti trois dents aiguës s'imprimer sur ma main, dans les ténèbres. Je me suis réveillée, frissonnant et baignée d'une sueur froide. Le bonhomme aumônier était assis au pied de mon lit et lisait des prières. « Ai-je dormi longtemps ?» lui ai-je demandé. « Mon fils, m'a-t-il dit, vous avez dormi une heure. On vous a amené votre enfant. Elle est là, dans la pièce voisine, qui vous attend. Je n'ai pas voulu qu'on vous éveillât. « Oh » ai-je crié, « ma fille, qu'on amène ma fille. » Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. On lui a mis une petite robe qui lui va bien. Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai baisée sur ses cheveux. Pourquoi pas avec sa mère ? Sa mère est malade, sa grand-mère aussi. C'est bien. Elle me regardait d'un air étonné, caressée, embrassée, dévorée de baisers, et se laissant faire, mais jetant de temps en temps un coup d'œil inquiet sur sa bonne, qui pleurait dans le coin. Enfin, j'ai pu parler. « Marie, ai-je dit, ma petite Marie. » Je la serrai violemment contre ma poitrine, enflée de sanglots. Elle a poussé un petit cri. « Oh, vous me faites du mal, monsieur, m'a-t-elle dit. » « Monsieur ?» Il y a bientôt un an qu'elle ne m'a vue, la pauvre enfant. Elle m'a oubliée, visage, parole, accent. Et puis, qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ces habits et cette pâleur? Quoi? Déjà effacée de cette mémoire, la seule où j'eusse voulu vivre? Quoi? Déjà plus père, être condamné à ne plus entendre ce mot de la langue des enfants, si doux, qu'il ne peut rester dans celle des hommes. Papa. et pourtant l'entendre de cette bouche. Encore une fois. Une seule fois. Voilà tout ce que j'eusse demandé pour les 40 ans de vie qu'on me prend. « Écoute, Marie, lui ai-je dit, en joignant ses deux petites mains dans les miennes. Est-ce que tu ne me connais point ?» Elle m'a regardé avec ses beaux yeux et a répondu « Ah bien, non ?»« Regarde bien, ai-je répété. Comment ? Tu ne sais pas qui je suis ?»« Si, a-t-elle dit. Un monsieur. » Hélas, n'aimer ardemment qu'un seul être au monde. L'aimer avec tout son amour et l'avoir devant soi, qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond, et ne vous connaît pas. Ne vouloir de consolation que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut parce que vous allez mourir. « Marie, ai-je repris, as-tu un papa ?»« Oui, monsieur, a dit l'enfant. Eh bien, où est-il ? » Elle a levé ses grands yeux étonnés. « Ah, vous ne savez donc pas ? Il est mort. » Puis elle a crié. J'avais failli la laisser tomber. « Mort, disais-je ? Marie, sais-tu ce que c'est qu'être mort ?»« Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Il est dans la terre et dans le ciel. » Elle a continué d'elle-même. « Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir, sur les genoux de maman. » Je l'ai baisé au front. « Marie, dis-moi ta prière. » « Je ne peux pas, monsieur. Une prière, cela ne se dit pas dans le jour. Venez ce soir dans ma maison. Je la dirai. » C'était assez de cela. Je l'ai interrompu. « Marie, c'est moi qui suis ton papa. »« Ah ? » m'a-t-elle dit. J'ai ajouté. « Veux-tu que je sois ton papa ?» L'enfant s'est détourné. « Non, mon papa était bien plus beau. » Je l'ai couverte de baisers et de larmes. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant. « Vous me faites mal avec votre barbe. » Alors je l'ai replacée sur mes genoux, en la couvant des yeux, et puis je l'ai questionnée. « Marie, sais-tu lire ?»« Oui, a-t-elle répondu. Je sais bien lire. Maman me fait lire mes lettres. »« Voyons, lis un peu, lui ai-je dit, en lui montrant un papier qu'elle tenait chiffonné dans une de ses petites mains. Elle a hoché sa jolie tête. « Ah bien, je ne sais lire que des fables. » Et c'est toujours. « Voyons, lis. » Elle a déployé le papier et s'est mise à épeler avec son doigt. « A, R, en, R, E, T, Ré. A, Ré. » Je lui arrachais cela des mains. C'est ma sentence de mort qu'elle me lisait. Sa bonne avait eu le papier pour un sou. Il me coûtait plus cher. À moi. Il n'y a pas de parole pour ce que j'éprouvais. Ma violence l'avait effrayée. Elle pleurait presque. Tout à coup, elle m'a dit « Rendez-moi donc mon papier, tiens, c'est pour jouer. » Je l'ai remise à sa bonne. Emportez-la. Et je suis retombée sur ma chaise. Sombre, désert, désespérée. À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire.